Ce qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
El pueblo unido jamás será vencido.
¡Vencemos a!
El pueblo unido jamás será vencido.
Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Voix Caddie, on a quelque chose à dire, c'est parti. Bienvenue donc, on se retrouve pour une nouvelle émission autour des questions de sécurité, d'insécurité et d'action sociale. Qu'est-ce qui fait qu'on vit bien ensemble? Ou justement, qu'est-ce qui coince? On va encore tenter un pas de côté pour essayer d'écouter ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On sera quatre à partager ce moment avec vous, Séverine, Jean-Jacques, Manu et moi, Guillaume. Et quand je dis qu'on sera quatre, c'est pas tout à fait exact. Car aujourd'hui, on vous propose une émission un peu particulière. En effet, on n'a pas d'invité en plateau et on vous invite à sortir de chez vous et à nous retrouver dans la rue.
Il faut dire qu'à Voix Caddie, nous aussi, on se sent souvent à la rue. Le 17 octobre, chaque année, se tient la Journée mondiale de la misère. À Montpellier, des associations comme ATD Carmonde ou les Restos du Cœur organisent sur la place de la Comédie un repas et une manifestation. Ce 17 octobre dernier, notre envoyé spécial Jean-Jacques y est allé et y a passé quelques heures et a rencontré des gens qui avaient quelque chose à dire. Comme il ne quitte jamais son mini-disque, il a pris quelques sons pour nous les rapporter. Ça fait un moment qu'on réfléchit à comment vous les présenter et finalement, on a décidé de vous en faire une émission spéciale avec quelques extraits choisis, comme notamment l'interview de ces deux jeunes qui viennent d'arriver à Montpellier et qui nous expliquent comment ils vivent les choses.
Bon, mais la première question est toute bête. Je vous vois ici aujourd'hui le 17 octobre, journée du refus de la misère. Alors, qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui, place de la Comédie à Montpellier?
Bah, écoutez, nous, à la base, on n'est pas d'ici. Donc, on est venu pour travailler, en fait. Et on est parti de notre ville du jour au lendemain, comme ça. Ça fait quoi? Moi, ça fait deux jours que je suis ici, personnellement.
Et c'est quoi votre ville? Vous venez d'où?
La région parisienne, banlieue parisienne. J'ai eu des problèmes là-bas, on va dire ça comme ça. Donc j'ai préféré quitter la banlieue pour venir ici. J'ai 25 ans. Pour repartir d'un bon pied dans ma vie, parce que voilà, là-bas, c'est pas comme ici. Moi, je fréquentais des mauvaises personnes, tout ça. Donc j'ai préféré quitter ma ville pour refaire des relations ici, les trier surtout, de bonnes relations. Et voilà, je pense que je serais plus motivé ici que là-bas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Okay. Vous êtes partis ensemble, en fait, au même endroit?
Non, on s'est rencontrés ici. Moi, j'ai 25 ans, je viens de Nancy. Ouais. J'ai travaillé 6 ans dans ma vie. J'ai perdu mon travail du jour au lendemain.
C'était quoi comme boulot?
J'étais vendeur. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu ma copine. Tout s'est enchaîné, en fait. Et j'avais des mauvaises relations aussi là-haut, j'ai décidé de partir ici, quoi. Et en fait, ce que je vois, c'est que ici, quand on... Comme partout, pour trouver un travail, il faut soit un diplôme, soit de l'expérience. Mais pour avoir de l'expérience, il faut bien commencer un jour, quoi, je veux dire. Et si personne ne laisse la chance de pouvoir commencer, on n'aura jamais d'expérience, on n'aura jamais de travail. Et je trouve ça un peu dommage, quoi. Et...
C'est vos sacs que je vois derrière?
Ouais, c'est nos sacs, on dort dehors, quoi. Et au 115, il n'y a pas de place tout le temps, quoi, je veux dire. Il faut attendre.
Donc ça veut dire que quand... Toutes les nuits, tous les matins, vous devez réembarquer vos sacs quand vous êtes au 115 dans l'espoir que le soir vous puissiez redormir quelque part.
J'ai jamais été au 115 encore.
D'ailleurs, vous n'avez jamais pu avoir de place?
Non, j'ai pas encore eu de place, quoi. J'attends. Tous les soirs, je suis dehors, je dors sur mon sac, quoi.
Ce matin, on nous a appelé, on nous avait dit que la liste était pleine, mais comme il y a des gens qui se désistent ou qui ne reviennent pas tous les soirs, bah, faut rappeler à partir de 19h et peut-être qu'ils peuvent y avoir une place, quoi. Mais bon. Il y a des gens qui appellent avant nous et ces gens-là, ils passent forcément avant nous. Voilà, maintenant, nous, on veut bien commencer à faire des démarches, mais on peut même pas, parce qu'avec les valises, tout ça, on peut pas marcher 20 minutes. Même pour prendre un ticket de bus, on n'a pas. Donc on est obligé de marcher et marcher avec des valises.
Mais alors, racontez-moi un peu plus votre rencontre. Vous êtes arrivés quasiment tous les deux en même temps à Montpellier, sans vous connaître, bien sûr. Tous les deux avec vos sacs. Et là, j'imagine... Bien que vous en témoignez, parce que c'est quelque chose qu'il faut que les gens entendent. Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans une ville inconnue avec un sac quand on ne sait même pas où on va dormir?
Bah, ça fait très bizarre et on se demande comment dire, on se demande comment on va finir, quoi, tout simplement. Et
pour revenir sur ma question, vous êtes arrivé à la gare, j'imagine. Et alors, comment vous êtes rencontrés, par exemple?
En fait, on s'est rencontrés dans un endroit logique. Ça s'appelle Pause. C'est un endroit où on peut boire un café, déjeuner, prendre une douche. Et voilà, de là, on a une bonne entente, on a le même âge. Donc on s'est dit quoi? Forcément, on s'est dit, voilà, l'union fait la force. Et vaut mieux être avec quelqu'un qui nous ressemble que quelqu'un qu'on peut pas vraiment avoir confiance ou quoi que ce soit.
Parce que tout seul, on peut avoir vite fait une baisse de morale, quoi. À deux, s'il y en a un qui a une baisse, il y aura toujours quelque chose, le deuxième pour le remonter un peu le moral, quoi.
Et en plus, d'après les conversations que j'ai eues tout à l'heure avec d'autres jeunes, la rue, c'est quand même pas la sécurité tous les jours. Donc plus on est nombreux, plus c'est prudent aussi, non?
C'est sûr, plus on est nombreux, plus c'est prudent. On peut se faire agresser à tout moment, c'est sûr. Mais voilà, après, il faut pas penser à ça tout le temps, quoi. Il faut pas être méfiant de tout le monde. Vraiment, on s'en sortira jamais, quoi. Il faut faire confiance un peu aux gens. Mais ce que je trouve dommage, c'est les gens qui sont dans la rue et qui se mettent à boire. Et c'est les gens-là qui créent des mauvaises images. Quoi. Ça peut arriver de baisse de morale, mais...
Vous avez dû faire la manche déjà, hein?
Franchement, on n'a pas tendu la main, mais on allait vers les gens. Voilà, vous avez pas, on explique un peu notre cas. Vous n'aurez pas 20 centimes ou 1 euro à dépanner pour manger. Voilà, c'est vraiment pour manger, c'est pas pour le plaisir. Et voilà, on est tous des êtres humains et on a notre fierté, quoi, et c'est vraiment pas agréable. Et moi, personnellement, j'ai essayé une fois, j'ai essayé hier. J'ai vu que c'était pas mon truc. Donc voilà, je préfère pas le faire, quoi. Voilà. Je veux pas aller jusqu'à voler, mais je préfère me contenter des associations, de ce que je peux. Quitte à faire un petit déjeuner par jour, voilà. Je me vois pas. Parce que les gens de nos jours, ils sont pas compréhensibles, c'est du chacun pour soi. Voilà. Ça. Après, ça dépend des personnes. On peut demander 1 euro à une personne, elle peut nous donner un billet de 50 euros, on va dormir à l'hôtel. C'est ce qu'elle pensera, sûrement. Mais il y a des personnes, ce que je veux dire, ils se croient supérieurs à nous parce qu'on leur demande une petite pièce, quoi. Mais c'est compréhensible aussi.
Ouais, parce que comment, rappelez-vous, il y a 5, 6 ans, 10 ans, comment vous regardiez, vous, les gens qui galéraient comme ça?
Franchement, moi, j'ai toujours eu de la compassion pour les personnes pauvres. Parce que mes parents sont originaires du Maroc, là-bas il y a beaucoup de pauvreté. Sincèrement, quand il y a un clochard qui passe dans une rue, il demande à manger. Ma grand-mère, par exemple, souvent je l'ai vu descendre une assiette à moi, un repas pour une personne sans domicile. Cette personne-là, elle s'assoit en bas de la maison, elle mange, elle laisse l'assiette, elle repart. Il y a des pays où ils ont plus l'habitude de ça, on va dire, ils sont plus solidaires que d'autres. Voilà. Mais la France aussi, je critique pas la France. Franchement, c'est un pays de droit. Mais je trouve qu'il y a trop d'écart et socialement c'est pas trop ça, quoi. Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a une personne qui peut se faire agresser, il y en a ils vont le regarder normalement. Ouais, sans lever le petit doigt ou. Voilà, ça va leur faire ni chaud ni froid. Alors que non, il faut agir, vous voyez ce que je veux dire? Et ben là c'est la même chose. Quand on voit quelqu'un dans la rue, il faut aller vers lui, discuter un peu avec lui, même si c'est pas forcément lui de. L'aider financièrement, mais juste parler, ça remonte toujours le moral pour une personne qui est faible, quoi, on va dire ça comme ça.
Et cette journée, je crois qu'elle sert beaucoup à ça, en fait. D'après ce que j'ai cru comprendre entre les organisateurs et puis les personnes qui étaient là, c'était aussi l'idée qu'il ne fallait pas que les gens se passent à côté, qu'avant même de donner ou pas de l'argent, qui est évidemment super important, hein, mais il y a ce côté, on se regarde comme des êtres humains et dans la dignité, et puis... Voilà, il y a des gens qui ont eu des coups durs, d'autres qui les ont pas encore eus ou qui les auront peut-être pas, mais on leur souhaite. Mais et c'est cette rencontre-là qui est importante dans ce type de journée, non?
C'est sûr. C'est avant tout le relationnel, la discussion. Voilà, ça réchauffe surtout le cœur. Bien sûr, il faut réchauffer le ventre avant, mais le cœur, c'est le moteur de l'être humain et ça passe avant toute chose. Même une personne qui a faim... Je pense que le moral, c'est plus important que la faim. Voilà.
Chose à rajouter?
Moi, je dis que c'est bien de faire une journée comme ça, mais il faut pas s'arrêter une journée, quoi, je veux dire. Il faut que les gens, demain, il y en a beaucoup qui passent, ils se disent « Ouais, c'est bien, il faut être solidaire et discuter avec les gens, et demain, ils vont se réveiller, c'est fini, quoi, je veux dire, ils oublient tout ça. » Et justement, c'est ça qu'il faut pas faire, ce serait une grosse erreur. Il faut continuer. Et je dis pas à donner à manger comme ça tous les jours, mais je dis à continuer à faire avancer les choses. Parce que je trouve pas que ça avance beaucoup, quoi, je veux dire. Vu ce que je vois, moi quand j'étais pas dans la rue, je voyais pas beaucoup de choses. Maintenant que j'y suis,
c'est énorme le nombre de jeunes qui y sont, le nombre de personnes qui y sont. Parce qu'il y a des personnes comme moi, là, je veux dire, je suis assez bien habillé, je suis propre. Les gens ils me voyaient dans la rue, ils disaient, avec ma valise, ils disaient, oh, c'est un voyageur, il est en vacances. Malheureusement, je dors dehors, quoi.
Non, mais je crois que vous avez raison, parce que quand, quand on a vu le nombre de personnes qui venaient manger aujourd'hui ici, et le nombre de jeunes, justement, je pense que les gens ont pris conscience qu'en effet, la difficulté à trouver un endroit où dormir ou manger, elle est massive, que c'est pas trois personnes, c'est un nombre incalculable de personnes.
Ça, c'est ce qui est le plus inquiétant, quoi. C'est, y a trop de personnes qui se retrouvent à la rue, donc forcément, les associations peuvent moins les aider parce qu'ils ont beaucoup de demandes, ils sont surchargés. Et voilà, apparemment, l'État, il change pas leur politique, quoi. Au lieu de, comme vous disiez tout à l'heure, d'investir dans les banques, il faudrait plus investir dans les associations pour aider les gens. Parce que investir dans les banques, c'est bien pour ceux qui ont de l'argent, mais pour ceux qui n'en ont pas, ça ne leur changera pas leur quotidien. Voilà. On espère, on garde espoir que pour un lendemain meilleur, quoi. C'est tout.
Et une dernière question sur, vous avez une formation, toi, vous avez bossé déjà pendant 8 ans, et vous avez une formation ou pas?
Moi personnellement j'ai pas de diplôme, mais j'ai fait une petite formation dans la plomberie, et pourquoi pas en refaire une, quoi, j'ai 25 ans, l'avenir devant moi peut-être.
Moi j'ai aucune formation, mais j'ai 6 ans d'expérience en tant que vendeur, quoi. Mais à cette heure-ci, c'est toujours pareil, hier j'ai posé toute l'après-midi, je posais des CV. Et des gens me disent, bon, y a pas, on vous appellera, je suis d'accord, mais le gars il sait pas que je suis dehors, quoi. Mais le jour où j'aurai un entretien, il va me dire, c'est quoi ton adresse, t'habites où, et je vais dire, monsieur, je suis dans la rue, il va me dire, écoute, un vendeur, il faut que ça se présente assez bien, t'es dans la rue, je veux dire.
Et c'est pour ça que Corus propose propose des adresses pour pouvoir donner une adresse aux employeurs. Sauf que les employeurs connaissent quelquefois cette adresse-là.
C'est qu'en fait, ils donnent l'adresse, mais sur Montpellier, c'est connu, donc... Il y a 150 personnes qui ont la même adresse, je veux dire, il y a un truc, quoi. Les gens le savent, donc ça les freine, quoi. Après, c'est compréhensible un peu, quoi. Un gars qui est dehors, je veux dire, qui est serveur, vendeur, qui doit se présenter, parler à des clients, il faut quand même qu'il soit assez propre, qu'il soit assez bien, quoi.
Sauf que, regardez-vous, là, vous êtes super propre et vous pourriez bosser sans souci, c'est-à-dire que c'est pas la rue qui fait que...
Ouais, et des gens comme nous, je veux dire, il n'y en a pas énormément, quoi. Moi, je veux dire, je me lève le matin, avant de penser à manger, je pense à me nettoyer, je fais attention à mes affaires. Parce que c'est le seul truc qui me reste, c'est la seule image. Je veux dire, le premier contact, c'est l'image, quoi. Je veux dire, l'image que vous apportez à la personne, quoi. Et si vous venez avec troué, avec du visage sale ou de mauvaise odeur, c'est-à-dire, vous partez avec aucune chance, quoi. Déjà, en étant propre, en ayant un appartement, en ayant tout, une vie normale, c'est déjà pratiquement... C'est dur, déjà, de trouver un travail. Alors, en étant dans la rue, c'est pratiquement impossible. Mais vraiment impossible. Et malheureusement, pour avoir un appartement, il faut travailler. C'est une chaîne sans fin, quoi. Mais le principal, c'est de garder le moral, quoi, et d'y croire. Et après, ça devrait passer, quoi.
Bon, on le garde aussi parce qu'on croise des gens. Tout à l'heure, là, celui qui... L'écrivain, je ne sais pas si vous l'avez pu l'entendre ce matin, qui est venu discuter tout à l'heure dans le stand là-bas. Il racontait son parcours de quelqu'un qui était passé par une grosse période de galère et puis qui s'en est super bien sorti. Et qui... voir qui considère que maintenant ça l'a amené à mieux réfléchir, en fait. C'est-à-dire que ça fait partie de choses importantes pour garder le moral, de se dire que c'est pas inéluctable. En effet, il y a des gens qui restent dans la rue, mais il y en a tout un tas qui s'en sortent, et qui s'en sortent plus fort qu'avant même.
Je pense qu'une fois qu'on s'en sort, ce sera toujours plus fort, quoi. C'est toujours, je vais pas dire une bonne expérience non plus, quoi. Mais je veux dire, ça peut servir pour plus tard, quoi, de faire plus attention, faire se méfier de beaucoup de choses, quoi. Et puis et plus de connaissances, quoi, ça sera... on peut s'en sortir aussi, quoi. On s'en sortira.
Franchement, on dit que ce qui tue pas rend plus fort, je pense que c'est vrai, et je me dis que c'est à ces moments-là où on doit être le plus fort, le plus réfléchir, et on est beaucoup plus motivé pour s'en sortir, donc voilà, ça peut être une motivation en plus, quoi, d'être dans la rue, voilà. Parce que quand on est chez papa et maman, on compte sur eux, vous voyez ce que je veux dire, et tout ça, ça dure pas, donc voilà, vaut mieux faire sa vie, compter sur soi-même. Et c'est une expérience de la vie. Et il y en a, comme vous dites, qui ont été à la rue, ils sont super bien sortis. La preuve qu'on peut réussir dans n'importe quelle situation. Il faut juste être motivé et le vouloir. Enfin, le vouloir. Avoir des idées et essayer d'y arriver, quoi. Voilà.
C'était quoi l'expression « ce qui ne tue pas » ?«
Ce qui ne tue pas rend plus fort ». C'est ça, donc... La rue... C'est sûr qu'elle a tué à petit feu, mais voilà, faut la combattre. C'est un combat de titan. C'est comme si on se battait contre un lion. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est ça passe ou ça casse. Faut résister, faut survivre. Voilà, pour espérer vivre plus tard. Voilà. Parce que si on survit pas, on se laisse aller, on va tout droit dans le caniveau. Il faut garder le moral.
Bon, merci beaucoup, bon courage, à très bientôt.
C'est nous qui vous remercions et je souhaite bon courage à tous ceux qui vont nous écouter. Ce que je souhaite pour moi, je le souhaite pour eux.
Pas mieux dire.
Au revoir.
Ils vivent dans les rues, les squares et les jardins. Marche au regard éperdu, il fait son bonhomme de chien. Et au pas de carrière pour l'avenir, car hier n'est plus à venir. Il vit le moment présent, après l'hiver vient le printemps. Il gagne un peu d'argent, oh pas beaucoup évidemment, juste assez pour ne pas mourir, le temps d'avoir des souvenirs. Il croit pas trop en Dieu, et puis même s'il y croyait, c'est déjà dur seul à seul. Alors pensez seul à deux, il vivote dans les rues, les squares et les jardins. Son regard est perdu, il fait son bonhomme de chien. Yeah, yeah, yeah. Il vivote dans les rues, les squares et les jardins. Oh, 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 mama yo. Son regard est perdu, il fait son bonhomme de chien. Sur son visage, oh la jeunesse qui se ride. Au-dessus de ses yeux, ses cheveux se débrident. Il a l'âge des grands nuages qui ne tiennent pas sans cage. Allant parcourant des rangs du large vent d'arrière. Mais un grand coup d'éclair, l'orage blesse le nuage. La pluie saigne très clair, oh, les larmes de son grand âge. Il est libre à son compte, prenant les jours comme à compte. Se nourrissant de pommes, oh les jolis fruits d'un. Il vivote dans les rues, les squares et les jardins. Marche en regard éperdu, il fait son bonhomme de chien. Dans les rues, les squares et les jardins. Oh, 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 oh. Son regard est perdu, il fait son bonhomme de chien. Oh, c'est en été que j'ai lu dans une rubrique aux faits divers qu'un vieillard mourut d'un coup de foudre révolu. Il est léger comme l'air, il n'a plus soif à sa faim. Ma chanson n'a plus d'espoir, il n'y a pas de mots sans fin. Notre chanson n'a plus d'espoir, il n'y a pas de mots sans fin. Notre chanson n'a plus d'espoir, il n'y a pas de mots sans fin. Allez. Il vivote dans les rues, les squares et les jardins. Marche en regard éperdu, il fait son fantôme de chemin.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité sociale.
Wakadi, ça veut dire on a quelque chose à dire. Mais justement, nous, on a quelque chose à dire.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité.
Un pas de côté sur l'actualité sociale.
Le meilleur avenir, on le leur souhaite. Il y a ceux qui découvrent et résistent à l'univers de la rue, et celui qui ne souhaiterait pas le connaître, mais qui semble s'y préparer. On écoute ça de suite.
Alors, bonjour, je vous vois donc manger. On est aujourd'hui le 17 octobre, place de la Comédie à Montpellier. C'est un repas offert pour la journée du refus de la misère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une journée comme ça pour vous ?
Voilà, je dirais que c'est une journée de solidarité. On essaye de faire quelque chose contre l'exclusion, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. En fait, il faudrait que ce soit en permanence comme ça.
Comment vous décrirez la misère aujourd'hui? Si on vous disait d'essayer de la définir, qu'est-ce que c'est la misère pour vous?
La misère, elle est avant tout... bien sûr, elle est matérielle, la misère, mais avant tout, elle est spirituelle. Elle est de plus en plus spirituelle, cette misère, parce que, comme je vous le disais, on va vers un individualisme forcé, forcené. On court, la machine est emballée. Et c'est la réussite sociale qui prime sur toute chose, quoi. Voilà ce que c'est déjà la misère. Elle commence par la spiritualité. Et évidemment, une de ses conséquences, la conséquence la plus immédiate, c'est le matériel. La misère, on la voit tous les jours, la misère. La misère, vous promenez un petit peu, place de la Comédie, vous promenez un petit peu partout en France. Et en France, c'est un pays encore relativement bien loti. Vous voyez de plus en plus de misère, de plus en plus. Moi, par exemple, j'ai travaillé 20 ans, j'ai 48 ans, ben voilà, je suis obligé de venir manger au Resto du Cœur de temps en temps.
Vous travaillez comme quoi pendant 20 ans ?
Ben, je suis électromécanicien de métier, j'ai fait 11 ans d'usine en tant qu'électromécanicien. Ensuite, j'ai été formateur dans une association qui s'appelle Le Tremplin. J'étais formateur dans un atelier d'électroménager, j'ai travaillé 8 ans. Et puis voilà, puis là, ça fait un an et demi que je ne trouve plus de travail. Bon, j'ai eu quelques problèmes de santé. Pendant un an et demi, j'ai été pris en compte par les acéliques. Et puis maintenant, voilà, plus rien. Donc, je suis entre deux dossiers, dossier RMI, dossier ci, dossier ça. Mais entre deux dossiers, ben, il faut quand même manger, il faut quand même payer ses loyers, il faut quand même... Et voilà, quoi, point à la ligne.
Hein, au moins, vous avez réussi à préserver un logement ?
Eh bien, là, pour l'instant, j'ai réussi à préserver un logement, mais si je ne trouve pas de travail ou si on ne me prend pas en charge très rapidement, je vais me retrouver, je ne sais pas où. On verra bien.
Avec l'inquiétude de l'avenir, donc.
Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Matériellement parlant, oui, grande inquiétude sur l'avenir.
Et au niveau des ressources amicales ou familiales ?
Oui, ben, la famille, bien sûr, on peut toujours plus ou moins compter sur la famille, mais c'est pareil. On a notre honneur, on a notre dignité, ils ont aussi leur vie, ils vont nous héberger 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis après, bon, voilà, quoi. C'est juste un dépannage, quoi. La famille, c'est très précaire.
Et dans votre, dans vos connaissances, vous connaissez des gens qui sont à la rue en ce moment ? Qui ont eu un peu le même parcours que vous, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé, puis par un aléa de la vie qui fait que là, vous parlez d'un problème de santé avec la perte d'un emploi, se retrouve dans cette situation-là, ça, vous en connaissez d'autres ?
Oh, oui, j'en connais, bien sûr, j'en connais. Et surtout en ayant travaillé dans le social, oui, j'en connais beaucoup.
Et alors, comment on fait changer tout ça ?
Je vous dis, il faudrait qu'il y ait plus d'humanité, que plus d'amour, plus de... Les hommes ne sont pas des chiens. Je pense qu'il y a assez d'argent en France, assez de revenus, assez de ressources pour pouvoir nourrir tout le monde. Ouais, toutefois, il y a tellement de... L'amour du grand nombre, c'est tellement refroidi, il y a tellement de préjugés, vous avez vu le plan Sarkozy, les riches ont un petit ennui, on nous débloque 360 milliards d'euros, il y a 6 milliards de pauvres qui crèvent sur la planète, on ne débloque pas un centime. Voilà, point à la ligne, je veux dire, c'est clair. Maintenant, le peuple, il réagit pas parce qu'on est cerné, par la police, on est cerné de tous les côtés. C'est bah, il y aura tellement de choses à dire.
Bon, je vais peut-être vous laisser manger quand même, profiter de ce repas.
Oui, pas de problème, c'est froid alors. J'ai pris une petite salade froide.
Bon, merci beaucoup et à très bientôt, bon courage.
Merci. Au revoir.
Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. Cette histoire, c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, le grand patron m'a dit: vous passerez me voir à mon bureau, monsieur machin, on vous remercie. Et j'ai jamais retrouvé de boulot. Une compression de personnel fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis j'habite rue de nulle part, comme ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, moi j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les règles du grand capital ont tout volé, même le vital, le nécessaire avant l'envie. Ma vie est devenue la survie. Ma maison, c'est un carton d'emballage Ikea. C'est là que je bossais comme un con. Avant qu'ils aient plus besoin de moi, j'ai faim marquée sur un panneau. Je fais le mendiant dans le métro. Ça fait bizarre, je vous assure. Plus voir les gens mais leurs chaussures. Et croyez pas que ça m'amuse de devoir faire mon petit numéro. Du messieurs dames, je m'excuse. Une pièce ou un ticket resto. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas mais méfiez-vous. Un jour ça tombera peut-être sur vous. Peut-être qu'un jour ce sera votre tour d'aller crever au pied des tours. L'œil ébloui par la lumière des grands fabricants de misère. Les belles multinationales qui font des pauvres et des maudits. Des millions de gens qui crèvent la dalle pour la cinglerie du profit. Et quand arrivera l'euro, vous n'en verrez pas la couleur. Ce sera les mêmes qu'en auront trop. Messieurs, mesdames, à votre bon cœur. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Alors vous vivrez l'aventure que vivent les nouveaux clodos. Car dans la rue, la vie est dure. La rue, ça fait pas de cadeaux. Assis sur le banc de touche, non, vous n'aurez pas le choix. On vous mènera de force à la douche. Que vous soyez sale ou pas, pour conserver bonne apparence, vous vous raserez tous les matins, mais les jours de grande affamance, vous volerez les grands magasins, un feu rouge pour 10 francs, à des gens tous indifférents, vous serez vendeur du lampadaire, l'hebdomadaire de la galère. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Oui mais je sais qu'un jour viendra. Un jour le vase débordera. Les pauvres on se réunira. Voilà ce qui arrivera en ayant marre d'être cocu. Tous les exclus de la galette. On viendra reprendre notre dû. Cette fois c'est vous qui aurez les miettes. Comme il n'y aura pas d'autre solution, on refera la révolution. Des millions de pauvres dans la rue, ça peut vous refoutre un beau chahut. Et on s'en ira pique-niquer sur les belles pelouses de l'Élysée. Et ce jour-là, planquer l'artiche, il fera pas bon être trop riche. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous. Un jour ça tombera peut-être sur vous.
Vous êtes toujours sur Radio Clapas, c'était Les Escrocs, la Java du caniveau.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Pas d'adresse, pas d'emploi. Pas d'emploi, pas de logement. Pas de logement, pas d'adresse. La lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, comme dirait l'autre. S'ils ne s'imaginent pas heureux de leur sort, ils s'affirment pourtant solidaires en partageant le peu. On écoute.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici ? Qu'est-ce que c'est pour vous cette journée du 17 octobre ?
Je pense que c'est un accueil social pour les gens qui sont dans la misère, qui n'ont pas de logement et pas de bouffe. Donc on est accueilli ici pour pouvoir boire un peu de chocolat,
se réchauffer,
parler un peu avec des gens et pour pouvoir avoir un dîner gratuit à midi.
De quoi avoir mangé pour midi, comme ça au moins, le soir, la journée passe une bonne journée, après voilà. Quoi.
Et ça veut dire que quand il n'y a pas ça, comment vous organisez ?
On se débrouille, des fois on fait la manche, je fais la manche, voilà. Je sais pas si les autres font pareil, à mon avis, les autres font pareil que moi.
On demande beaucoup d'invendus dans les magasins,
voilà,
ça marche pas tellement, on remarque.
Ça marchait mieux avant ?
Il y en a qui donnent, il y en a qui n'osent pas donner, voilà. Il y a des, je suis au courant que McDo, ils mettent de la javel dans les hamburgers, paraît-il, dans les poubelles. Ouais. Donc c'est un peu.
Quick, mais il y a à part Quick, on m'a expliqué qu'il y a un collègue à moi qui m'a expliqué que il y avait un sac blanc, il y avait plein de manger, mais il n'y avait pas de javel dans celui-là. Donc et après le reste, ils mettaient tout dans la javel.
En fait, c'est, je crois qu'ils ont peur McDo que si jamais il y a quelqu'un qui est empoisonné à cause de ce qu'il y a dans la bouffe. Ils ont peur que les gens portent plainte contre eux. Donc c'est pour ça qu'ils détruisent le manger.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Et alors, j'ai cru comprendre qu'une des objectifs aujourd'hui, c'est que les gens, les gens qui se baladent là sur l'esplanade,
bah, ils voient qu'il y a beaucoup de misère et qu'il n'y a pas tellement d'associations qui quoi. Si, il y a beaucoup d'associations, mais il n'y a pas tellement d'aide. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas trop de subventions pour pouvoir donner un peu de sous, un peu de bon, pour aller manger dans le
monde. Ils passent, ils ne voient même pas les gens qu'il y a, ils s'en foutent. Et ce qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils passent, ils passent à leur petite personne et c'est tout. Quoi.
Mais alors, moi, j'ai l'impression que j'ai discuté au démarrage avec les gens qui voulaient organiser ça. Il y avait un des objectifs, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que les gens se rencontrent. Les gens se rencontrent, c'est-à-dire que les gens qui soient en ce moment, qui vont faire leurs courses à Polygone, se rendent compte que les gens qui galèrent dans la rue, ben, ça pourrait être eux. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir rencontrer les gens dans ce genre de journée?
Ah ouais, mais complètement. Moi, des fois, je discutais avec des gens qui ont des boulots et tout ça, et ils sont sérieux en me disant que ben, peut-être que, voilà, des fois, c'est pas arrivé qu'ils se retrouveraient dans la rue et bah, il faudrait pareil que nous quoi, ils essaieraient d'aller de trouver un peu de chaleur quelque part où c'est qu'il y a quoi. Donc si apparemment c'est sur les restos du cœur, je crois que ça fait plus de 15 ans que Coluche
est
décédé. Je crois qu'il a fait une bonne action et pourtant il était plein d'argent, il était très riche par rapport à ce qu'il faisait. Et puis voilà, il nous a pas laissé dans la galère quoi.
Il a connu peut-être la misère à notre époque, voilà.
Et je pense qu'il y a beaucoup d'élus aussi.
Il faut remercier
les élus d'ici parce qu'il y a beaucoup d'élus qui se bougent vraiment pour ça quoi. Et grâce à eux, bah, ça bouge bien, quoi. Ouais.
Mais dans le même temps, ça bouge, mais ça bouge une journée, mais est-ce que ça évolue dans le bon sens ?
Non, attention, c'est tous les soirs, on peut avoir un repas gratuit, un repas à midi gratuit, tous les jours, à certains points dans la ville. Voilà. Le jeudi, tous les 15 jours, ils nous donnent des habits tout neufs. Regarde, j'ai eu des chaussures toutes neuves. Voilà.
C'est pas ça, on m'a donné tout ça.
Emmaüs, ça a été fondé par l'abbé Pierre, donc
voilà, c'est une action.
Alors, une question qu'on se posait là, qui fait peut-être que les gens, ils ont envie de mieux comprendre, c'est comment on en arrive à se retrouver à la rue. Qu'est-ce que c'est qui fait ? Parce que si on disait tout à l'heure, tout le monde peut avoir l'impression d'être un jour susceptible d'être à la rue. C'est ça qui va faire, qui va se sentir concerné. Vous, comment on commence à...
Ben, des fois, on peut se retrouver comme ça. Il y a des gens, je sais pas, ils perdent leur famille, ils sont déprimés, ils se mettent dans la rue, voilà, et ils baissent les bras, quoi. Après, il y a des gens comme moi, les jeunes, d'un coup, ils perdent un boulot, un appart, on n'a plus d'adresse, on se fait virer par les parents parce que ben, on fume un peu des pétards, ou on boit un peu, on est marginal. Moi, je veux devenir berger, ma mère elle m'a toujours dit « t'es un marginal ». Voilà, donc là, dans la poche, j'ai un dossier pour une école. Voilà, pourtant, je suis pas si marginal que ça. Berger, c'est un des plus beaux boulots du monde, quoi.
Et donc, concrètement, ça veut dire que toi...
Moi, d'un coup, quoi, j'ai perdu un appart, un boulot. J'avais plus d'adresse, donc j'étais bien obligé d'aller vers ces gens-là, quoi. Qui nous proposent des adresses, qu'on peut recevoir du courrier, qui nous suivent pour des boulots et tout. Chorus, c'est une super association, je trouve. Ils nous donnent une adresse, on peut recevoir du courrier, et ils nous aident pour des boulots, ils nous aident pour des logements, voilà.
Et moi, je vous le dis aussi,
donc,
parce
je suis très ravi, moi, j'ai pas à me plaindre, quoi.
Depuis l'âge de 18 ans, je suis parti chez ma mère, mais bon, j'ai trouvé mon père pour m'aider un petit peu. Et bon, maintenant, je trouve plus mon père, parce que mon père m'a foutu à la porte, et ça, j'ai participé pas trop, donc ça se fait pas, quoi. Un fils, on a un fils, on n'en a pas deux, on n'en a pas 10, 20, 30. C'est un fils, je sais pas moi, c'est... Je sais pas s'il va l'écouter ce soir ou pas mon père, mais bon, franchement, on ne t'assure pas, quoi.
Voilà. Et la question du choix, parce que ça c'est une question... Tout à l'heure j'ai interviewé des gens dans la rue là-bas, et certains me disaient, les gens qui sont dans la rue l'ont plus ou moins choisi. Qu'est-ce que vous réagissez à ça ?
Non, non, moi personnellement, pour moi, en fait, ma mère m'a foutu à la porte parce que voilà, je fume des pétards et que mon beau-père, il a fait de la prison, donc forcément, quand tu fumes et que quelqu'un a fait de la prison et qu'il revient, il ne peut pas être avec peut-être quelqu'un qui fume, donc voilà. Moi, personnellement, j'étais à la rue, je ne l'ai pas demandé, j'ai tout travaillé et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans la rue et comme je reprends ce qu'ils disent mes collègues, Corus, c'est une association qui est très importante. Pareil pour le Resto du Cœur, pareil pour tous les bénévoles qui travaillent, parce qu'il faut le dire, ils sont là, et ils sont présents, ils sont sur le terrain et ils nous aident, nous qui sommes dans la galère. Et voilà, et moi aujourd'hui je leur dis merci pour tout ça, pour tout ce qu'ils font, parce que ils sont pas obligés de le faire, mais ils le font parce que ça leur fait plaisir et qu'ils ont envie d'aider les autres. Et voilà, et si un jour moi je pourrais faire la même chose, me retrouver derrière et aider une personne, et ben voilà, ça serait un souhait réalisé. Voilà. D'accord. C'est quelque chose.
En tout cas, ouais, sur ce que tu dis, c'est super clair que c'est pas un choix, les gens. Et la deuxième idée reçue qu'on entend, c'est mais pourquoi ils travaillent pas, ces gens? Pourquoi ils travaillent pas?
Alors, écoute, il y a peut-être certains cas qu'ils n'ont peut-être pas la forme pour travailler. Il y en a qui sont très vieux, ils n'ont pas la forme. Il y en a qui boivent beaucoup, il y en a qui se droguent beaucoup. Il y en a qui n'ont pas envie de travailler, il faut le dire, quoi. Mais il y en a qui ont envie de travailler, quoi. Moi, je fais tout le temps des saisons, tout le temps. Là, j'arrive du Beaujolais, j'ai fait des vendanges. Et pour te dire, il y avait plein de costauds, j'ai fait le porteur, quoi. Tu vois, pour te dire, quoi. Et on est payé une misère. On dort dans des endroits délabrés comme pas possible.
Moi, perso, je me dis que, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas trouver de boulot en France si on n'a pas d'adresse, de lieu d'adresse. Voilà, maintenant, on nous propose des adresses, certes, mais on nous propose des adresses d'SDF. On nous propose des adresses d'SDF et quand on va chez un employeur et qu'il voit ça, l'employeur n'a pas envie. Quand il voit ça, il n'a pas envie de nous embaucher. Et ça, c'est un gros problème en France.
Ils ont perdu
confiance. Dans le monde, voilà. Nous, on a besoin quoi? On a besoin qu'on nous donne confiance. Moi, je suis un jeune, j'ai 20 ans. Demain, j'ai 20 ans et je suis dans la rue. Ça ne devrait pas exister. Je devrais travailler. Moi, j'ai le courage pour travailler. Les gens qui me disent que ça n'a pas le courage de travailler, c'est que les gens ne me connaissent pas. Moi, je travaille. Tous les jours, je fais des démarches. Pourquoi? Pour m'en sortir. Ça fait 4 mois que je suis dans la rue. Mais tous les jours, je me dis que je suis un pas et un pas et un pas et que j'arriverai à la fin.
Toi, en tout cas, tu as connu le côté, tu vas voir un employeur, tu donnes ton assos Corus comme ton hébergeur et le mec, il te regarde en disant « je peux pas vous prendre voilà. ».
Oui, ouais. c'est comme une forme de racisme. Vous comprenez, les gens, ils ont une mauvaise vision des personnes qui sont dans la rue, mais c'est des personnes comme tout le monde. Moi, je suis une personne comme tout le monde. Je pourrais travailler et les gens, quand ils me voient comme ça, ils me disent pas « je suis dans la rue parce que je prends soin de moi, parce que je prends soin de ma personnalité ». Et parce que dans ma tête, je me morfonds pas, je me dis pas je vais rester à rien faire dans la rue, non, il faut, dans la tête, il faut avancer, il faut être un peu plus intelligent que les autres, et il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions. Et les gens, comme je disais tout à l'heure, les bénévoles qui sont là, et eh ben c'est un, voilà, ils nous réchauffent le cœur, voilà, c'est...
Ils ont des valeurs en fait, les bénévoles ont des valeurs, des fois certains patrons n'ont pas trop de valeurs, quoi, ils jugent sur justement parce qu'on est, à la rue, ils croient que parce qu'on est à la rue, on va pas gérer notre travail. Voilà, on est là juste pour faire de l'argent et pour pouvoir après ou aller boire un coup ou des trucs comme ça. Il y a même des fois des gens qui n'osent pas donner des sous à des gens qui font la manche parce qu'ils ont peur qu'ils vont boire des coups ou se droguer. Mais pas tout le monde sont comme ça, quoi. Moi, je suis pratiquement sûr que même les gens qui sont pas à la rue et qui ont des boulots et qui sont à l'école, ils se droguent plus que nous, ils boivent plus que nous et ils sont plus dans la misère que nous. Et bon, ils ont pas trop de valeur, quoi. Ils jugent pas mal les gens, quoi.
Et une autre question, c'est la question de la sécurité dans la rue. C'est-à-dire, on entend aussi
là,
que...
Là, c'est le feu.
C'est le feu.
Là, c'est le feu parce qu'il y a plein de racailles. Justement, c'est quand ils voient des gens dans la rue.
C'est la jungle. C'est la loi du plus fort.
Il y a certaines personnes qui veulent nous prendre des trucs qu'on n'a pas, quoi. Voilà, là, sérieux, dans la rue, c'est chaud, quoi. Faire gaffe quand même.
Donc pour se prévenir de ça, il faut être en groupe, il faut essayer de changer de lieu tout le temps.
Ah ouais, il vaut mieux être en groupe. Ouais. Et pas se laisser faire, surtout.
Ouais, c'est surtout ça, c'est comme il dit, ne pas se laisser faire, être vigilant. Moi personnellement, comme plein de personnes, je dors dans la rue et on ne dort pas vraiment, on a toujours un œil ouvert. on fait toujours attention, au moindre bruit on se réveille et on regarde autour de nous parce qu'on a des sacs, parce qu'on a des affaires, parce qu'on est comme tout le monde, on a nos affaires personnelles et on fait vachement attention, c'est tout ce qui nous reste. C'est donc on dort pas vraiment, on est toujours fatigué, le moral, tout ça. Moi, tous les jours, je bouge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais malgré ça, la nuit, j'ai du mal à dormir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y en a qui sont tapés, il y en a qui sont agressés, il y en a qui sont volés.
Voilà.
Mais ça, c'est la jungle.
Et par contre, la police, ils nous contrôlent tout le temps, quoi. Donc, ça,
je voulais vous poser la question de la police.
Ouais. C'est pas trop normal, quoi. Voilà.
Non seulement ils vous protègent pas, a priori.
Voilà, bah non, carrément pas, non.
Non. Et en plus, ils vous contrôlent en permanence.
Sans arrêt, quoi.
Et justement, dernière question, aujourd'hui, on est donc le 17 octobre, journée de refus de la misère. Et dans le même temps, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, c'est la crise économique, la crise financière, du fric.
Plus de subventions, plus rien.
Et surtout, une somme énorme d'argent qui va être donnée aux banques.
Ah bah,
alors qu'est-ce que ça vous fait, ce genre d'actualité? C'est un truc de...
C'est un peu flippant quand même, parce qu'on est tous RMIs, je pense.
Le RMI, je pense à toi tu l'as pas.
Non, moi j'ai 20 ans, donc j'ai pas le RMI. Voilà. Et j'ai aucune
ça,
aide.
C'est pas normal aussi.
J'ai aucune aide. Voilà. J'ai aucune aide et je me débrouille tout seul. Heureusement qu'il y a des gens qui sont compréhensibles. Je fais la manche, comme tout le monde, hein, pour vivre. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils donnent. Il y a certaines personnes qui donnent et ça me fait plaisir. Donc voilà, je voulais remercier toutes ces personnes-là qui écoutent et qui donnent. Voilà, je remercie toutes ces personnes-là. Il voilà.
Faudrait vraiment essayer de faire quelque chose pour ces jeunes-là qui ont moins de 25 ans et essayer de donner une petite aide quand même à ces jeunes-là, quoi. Parce qu'ils ont 20 ans, ils n'ont pas de sous et ils sont dans la rue quand même.
Ouais, on parlait tout à l'heure de la difficulté de trouver du boulot. Toi, pourtant, tu es diplômé.
Oui, moi j'ai passé deux CAP, j'ai un CAP d'horticulteur qui travaille au paysager, qui est un très beau métier, et j'ai aussi un CAP cuisine. Donc aujourd'hui on est à Montpellier, c'est une ville où il y a plein de restaurants, une ville où ils demandent beaucoup de cuisiniers, et malgré que j'ai un CAP, ben non, ils prennent pas. Pourquoi? Parce que je suis dans la rue, parce que je suis dehors et que j'ai pas d'adresse. Voilà. Donc moi aujourd'hui ce que je veux, c'est que les patrons nous laissent notre chance, qui nous laissent travailler, leur prouver qu'on est capable de faire les choses, surtout ça. Parce que nous, on est capable de faire quelque chose.
Et toi aussi, alors, tout à l'heure, en aparté, tu me disais que tu avais aussi des diplômes.
Oui, ouais, j'ai un diplôme d'escalade, j'ai un brevet d'état d'escalade, je suis prof d'escalade. Voilà, j'ai jamais pu travailler dans des clubs d'escalade, parce que dès qu'ils voyaient mon adresse, ils se disaient, voilà, t'es SDF, il n'y a pas la sécurité d'emploi, comment tu vas te comporter, est-ce que tu vas emmerder les gens, est-ce que tu vas te lever le matin parce que vu que tu dors pas, tu dors dehors. Voilà. Il y a eu souvent, on est souvent catalogué parce qu'on est SDF, quoi. En fait, ce mot, il fait peur à beaucoup de gens, quoi.
Mais là où c'est complètement paradoxal, c'est que si vous avez accès à un boulot, après vous pourriez avoir accès à un logement.
Complètement, oui. Oui, mais la plupart, ils vous disent expérience, mais vu qu'on n'a jamais travaillé, on ne peut pas avoir d'expérience. On peut pas acquérir deux ans d'expérience. Donc c'est contradictoire le truc.
Et pareil pour le logement, ce qu'on disait. C'est-à-dire,
et pareil pour le logement.
On te demande d'avoir un logement pour que tu donnes l'impression d'être stable, alors que tu peux pas avoir de logement sans
voilà,
boulot.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Nous on nous demande une adresse, un logement pour avoir un boulot, mais si on n'a pas d'adresse, on n'a pas de boulot, si on n'a pas de boulot, on n'a pas d'appartement, on n'a rien, on n'a aucune solution, aucune, et c'est dommage.
Il faudrait simplement que les patrons, ils fassent un peu des efforts et puis ils donnent confiance aux gens et voilà, et puis ils nous font faire des essais et puis si ça marche pas, ils nous virent, mais sinon il faudrait qu'ils fassent vraiment des efforts et qu'ils n'ont pas peur d'embaucher des gens, parce que je pense que les gens qui sont dans la rue sont encore plus motivés que des gens qui ont un appartement, qui ont une famille et qui cherchent un boulot.
Il va s'en sortir vraiment.
Voilà. Moi en tout cas perso, lui aussi, je pense que lui aussi, je pense qu'on est vraiment, ça serait un miracle qu'on trouve un boulot, un CDI, et on s'accrocherait vraiment et on donnerait tout, quoi. On donnerait tout, ce serait à 100%, ce serait pas à 60%, quoi.
Merci beaucoup.
De rien, à toi.
Merci bien.
Voilà. Donc c'était l'Indien.
Ah oui, donnez-moi, c'est vrai.
Voilà, c'était Jarod l'Indien.
Moi, c'est Florent du 93, tout le monde me connaît dans ce nom-là.
Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, on sent qu'entre vous, il y a une sorte de... On se rencontre, on se connaît.
On est solidaires à bloc, hein. Il n'y a pas de problème. On est solidaires à bloc. Quoi qu'il se passe, on est là. Il y a quelqu'un qui est dans la rue qui a un problème, on est tous là.
Bien sûr.
Et le peu, on le partage.
On se moque du tir comme du quart. Le monde se fout du monde car si l'on s'arrête 5 minutes, on voit sous la cocotte minute. Le feu affrontera la pression, la fin tenant à un bouton. Sur le fil de la dissuasion, encore une belle idée béton. On fait pousser des champignons dans les caves de l'oncle Dom Tom. Gentil, gentil, les autochtones, pour prendre bien un bout d'atome. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Qu'un petit crime se commette là-bas à l'ombre d'une comète, parce qu'une bande de Vénusiens dans un bal en sont venus aux mains. Et aussi sec, notre petite planète est au jus au courant du fait, par la lorgnette des caméras, prête à mater tous les coups bas. Tandis qu'en bas de chez toi, de chez vous, de chez nous, de chez moi, quelqu'un tout seul de faim, de froid, est mort en se bouffant les doigts. Papa, je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Des têtes à claque portant calotte, clame à bas la capote, puis se frober aux siens du sexe, qui mettent l'IVG à l'index. Eux qui de la vie ne connaissent que les balivernes des livres de messe. Un doigt de la crime à Christie, un autre dans l'Opus Dei. Et si l'amour peut rendre aveugle, il rend sourd ces fous qui beuglent, ces onanistes consacrés. D'eux aussi il faut se protéger. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Et comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit.
Si la crise occupe l'actualité, la misère occupe la réalité. Une réalité qui n'a rien d'une actualité. On écoute Bernard Garny, militant d'Athée des Quarts-Mondes et auteur d'un livre très touchant sur l'exclusion qui s'appelle Pierre Dom.
Pierre Dom, alors ça traite de quoi?
Ça raconte tout mon parcours. Je me suis retrouvé avec ma famille à l'âge de 12 ans dans les bidonvilles. Ça a duré jusqu'en 1972.
C'était les bidonvilles de quelle ville?
Noisy-le-Grand et Pomponne. Et c'est l'abbé Pierre qui avait créé justement pour loger les gens qui sont en bas de l'échelle sociale, ceux qui vivaient en dessous des ponts. Voilà, et je suis rentré vraiment de ce qui s'appelle la misère.
Alors ça c'est jusqu'en 72 dans les bidonvilles, et à partir de 72 qu'est-ce qui se passe?
Après il y a eu, dans ce bidonville-là, il y a eu un homme qui est arrivé, c'était un prêtre, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Au moment où j'allais basculer complètement à vouloir tuer les gens, il m'a dit, faut que tu pardonnes, vieux frère, sinon tu n'avanceras jamais dans la vie. Je dis, comment voulez-je pardonne? Est-ce que eux, ils me pardonnent? Souvent, ils ne le savent pas. Il faut aller justement vers eux. Il faut insister, il faut cogner à la porte. Et c'est ce que je fais. Et depuis, je suis devenu un autre homme. Et je me bats justement contre toute exclusion.
Alors, en 72, vous aviez quel âge?
Devinez, je suis né en 41. 72, j'avais 30 ans à peu près, 29 ans.
Quand vous disiez que vous aviez envie de tuer quelqu'un, c'était contre qui que vous en aviez exactement?
La haine, sur la société. On s'est retrouvés dans les bidonvilles. De ces camps-là, on sortait. Les gens, ils nous méprisaient, ils nous crachaient dessus. Ils savaient d'où on venait. Rien que présenter la pièce d'identité, j'ai cherché un travail, ils ne prenaient pas à cause de ça. Et ça, c'est la révolution dans moi. J'allais dans les restaurants voir ce que les gens y mangeaient. Je dis, mais pourquoi eux ils mangent et nous on crève la faim? J'allais sur les décharges, ramasser des boîtes de conserve pour pouvoir manger. J'allais même voler des patates, des poulets pour pouvoir manger, faire manger ma famille et les autres. Et dans ce camp-là, on était 3000 personnes, rendez-vous compte, 3000 personnes.
Et alors ensuite, donc, vous avez réussi à pardonner finalement la société d'une certaine manière et vous êtes engagé, vous, du côté de, bah, du refus de la misère. C'est pour ça qu'on vous retrouve aujourd'hui.
Je suis militant ATD Quart-Monde depuis 1900, depuis que ce mouvement ATD a été créé en 56-57. Depuis, je suis là et je continue le combat que le père Ledeuf m'a vraiment dit va vers les autres, essaye de dire. Comme quoi, la misère, ce n'est pas une fatalité. C'est pas, les gens pauvres ne cherchent pas la misère. J'aime s'en sortir. Mais on ne les comprend pas. On ne leur donne pas les moyens.
Et alors aujourd'hui, là, il y a moins de bidonvilles, on va dire. Les bidonvilles dont vous me parliez de Noisy-le-Grand, il n'existe plus ou peu. En même temps, il y a complètement une autre misère, bien plus supérieure, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça a évolué? Dans quel sens ça a évolué?
Je pense que l'être humain a oublié ce que ça veut dire être humain envers les autres. J'essaie de faire comprendre que on cherche pas la misère. Ils cherchent à s'en sortir. Moi, j'ai vu dans un quartier. Les jeunes qui cherchent du travail, ils reviennent, ils ne le prennent pas parce qu'ils savent d'où on vient. Ou alors, c'est par son nom. Et ça, ce n'est pas une ouverture. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qui se passe? À force d'être refoulés, de ne pas aller prendre le travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé les voitures, ils rentrent dans une haine qui, une fois qu'ils sont vraiment dedans, ils ne sortent pas. S'il n'y a pas la main tendue, ils cassent tout, ils brûlent tout, ils s'en foutent. Puisque la société s'en fout d'eux, ils deviennent comme ça. Et moi, j'avais la même chose. Et j'essaie de dire que c'est complètement faux. Si on nous donne la possibilité de sortir, si on croit en nous que ces jeunes-là, avec leur famille, qui sont capables de construire dans la société française, tout change, tout tonne.
Donc vous avez un peu le rôle aujourd'hui du prêtre qui était venu vous voir en 1972.
C'est mon propre... Je fais mon rôle. Mais il y a des millions de gens qui se battent, ça. Comme aujourd'hui, ici à Montpellier, il y a des alliés qui s'engagent, qui ont un engagement auprès des plus pauvres, rendons-vous compte. Ça, c'est un combat. Et ça, c'est une possibilité de sortir justement de ça. Faire comprendre à la société que c'est possible. C'est possible de sortir. Mais il faut du temps. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps, 40 ans quasiment. Construire ma famille, j'ai eu la possibilité avec ce prêtre, il m'a donné cette possibilité. Construire mon fils et seulement ses enfants qui vivent tout à fait une vie normale. Et c'est ce qui se passe. Il a deux enfants, ils vont à l'école, tout, mais c'est formidable, je trouve. Moi, j'étais que 5 ans à l'école. Parce que j'avais choisi de travailler, parce que j'avais des sœurs et des frères derrière moi, il fallait qu'ils puissent manger. Je me suis condamné pour eux. Et j'étais le soutien de famille, parce que ma mère, elle était toute seule, sans papa, 8 enfants.
Et alors, peut-être une remarque aujourd'hui sur l'actualité, là. En même temps, aujourd'hui, on est le 17 octobre, donc journée de le refus de la misère. Et en même temps, dans tous les médias, on parle beaucoup plus de la crise capitaliste, de la crise financière. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette jonction des deux événements qui ont plutôt rien à voir, ou peut-être un peu à voir, en fait?
Moi, je dirais que les hommes politiques, avant de parler quoi que ce soit, bien sûr, il y en a qui travaillent là-dessus, mais ce n'est pas assez. La preuve, aujourd'hui, il y a encore tant de pauvres. Et là, je pense qu'il faut qu'ils révisent tout ça. Je dirais qu'un ministre, il devrait passer 2 ou 3 mois dans une famille pauvre, voir comment que ça se passe. Peut-être que ça changera tout.
On a envie d'avoir de l'espoir et on aurait envie de se dire que ça peut changer. En tout cas, il y a des gens qui s'y emploient. On arrive à la fin de cette émission et on remercie le collectif du 17 octobre ainsi que toutes les associations et les personnes qui ont pris le temps de discuter avec nous lors de cette journée. Vous trouverez plus d'infos sur le site de l'association Wakadi, oacadi.free.fr. On se retrouve bientôt sur Radio Clapas et comme disait Ramon, restons vigilants. Au revoir.